On va continuer sur notre grand voyage du salut. La consommation du salut.
Et
nous avons vu que nous sommes sauvés.
Et
la Bible dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Et
nous savons que la manifestation de notre salut n'est pas totale aujourd'hui. Tu as reçu le Seigneur. Ton salut est assuré. C'est un don du Seigneur. Tu l'as reçu par la foi, par la grâce. Ton esprit a instantanément été recréé. Mais
ce
n'est pas la finalité dans laquelle tu vas te trouver avec Dieu. Nous avons vu qu'il y a tout un voyage que nous allons traverser avec le temps. Il y a plein de choses que Dieu a prophétisées dans sa parole et qui sont notre destinée à chacun d'entre nous. Parce qu'il nous aime et il nous a emmenés dans ce voyage extraordinaire.
Mais
malheureusement, même quand beaucoup de chrétiens témoignent et qu'on leur demande c'est quoi la vie éternelle, bon, certains vont vous dire bah, c'est d'aller au ciel.
Hein.
Et après, on va vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a au ciel? La plupart des chrétiens ne savent pas répondre. Et puis, ils sont bloqués là-bas. Non, le voyage de l'éternité est extraordinaire. Nous avons la vie éternelle. Une vie qui ne s'arrêtera jamais. Et avec Dieu pour l'éternité face à face. Mais nous avons vu qu'il y a des étapes. D'abord, Dieu nous trouve tel que nous sommes, il nous sauve. Et après, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se produire.
Alors,
avant le premier retour de Jésus, tous les gens qui meurent en Christ, nous savons qu'ils vont au ciel, nous avons étudié ce qu'il y a au ciel,
qu'il
y a un trône, le trône de Dieu, il y a les séraphins, les chérubins, ces créatures angéliques de très haut rang. Nous savons qu'il y a 24 trônes autour du trône de Dieu. Nous savons aussi qu'il y a la Jérusalem céleste. Au milieu, il y a le trône de Dieu. Et dans cette Jérusalem céleste, eh bien, il y a des routes, il y a des maisons. Il y a plein de choses extraordinaires qui nous attendent. Et tous les rachetés en Christ, quand ils meurent, ils vont là-bas. Ils vont au troisième ciel. Nous avons expliqué tout cela. Puis après, je vous ai montré qu'il va y avoir un événement. Et là, à partir du moment où il y a cet événement qui va se déclencher, nous connaissons tout le reste prophétiquement de ce qui va se passer avec les temps, les années. Et nous avons découvert dans la parole que Jésus va revenir. En fait, il va revenir deux fois. Entre les deux retours de Jésus, nous savons qu'il y a 7 ans. Quand Jésus revient la première fois, nous l'avons étudié, qu'est-ce qu'il vient faire? Les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont au troisième ciel, vont ressusciter d'entre les morts. Et nous, les vivants, nous allons être transformés en un clin d'œil. Nous allons être à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc Jésus, dans son premier retour, va venir pour ses saints et il va donc venir enlever son Église. Puis, nous allons tous aller au troisième ciel. Là, nous savons que pendant 7 ans, c'est la dernière semaine d'année de Daniel. Je vous ai montré les 70 semaines d'année de Daniel. C'est les derniers 7 ans prophétiques qui doivent se passer. Dont le prophète Daniel avait reçu la révélation. Nous serons bien au chaud, tranquille. Nous passerons devant le tribunal de récompense et je vous ai dit, c'est là où vous serez glorifié, où vous aurez la gloire. Je vous ai montré pourquoi Dieu ne voulait pas que nous prenions une once, un atome de gloire ici. Parce que nous sommes dans notre corps et nous ne sommes pas capables de contenir cette gloire. Par contre, il y a un jour où Dieu te donnerait de la louange parce que tu as fait pour lui. Des récompenses pour te donner une gloire sur toi. Et nous savons que nous revêtirons ce corps d'abord ressuscité ou transformé. Nous l'avons vu à l'enlèvement de l'église. mais Dieu va nous revêtir de sa gloire.
Et
d'après ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens 15, nous allons briller plus ou moins de la gloire de Dieu selon notre récompense. Pendant ce temps-là, nous savons la terre va être jugée par Dieu. L'Antichrist va se lever. Il va dire, moi j'ai la solution à tous les problèmes de la terre. Il va faire des miracles. Il va y avoir confrontation de puissance entre la puissance de Dieu et la puissance satanique. Et Dieu va envoyer une succession de jugements jusqu'à temps que ce soit la fin du monde. C'est-à-dire au bout des 7 ans de tribulation. Jésus va revenir une deuxième fois. Et nous l'avons vu. Quand Jésus revient une deuxième fois, là, il
ne
revient plus pour son église, mais il revient avec ses saints.
C'est-à-dire
avec nous.
Et
il va détruire la puissance de l'Antichrist. Alors qu'Israël sera complètement mis contre un mur, n'aura plus aucune espérance,
et
bien à ce moment-là, la puissance de Jésus va venir écraser l'Antichrist. Nous serons avec lui, nous serons de l'armée de l'Éternel, et à ce moment-là, nous allons détruire aussi avec Jésus toute cette puissance autour de l'Antichrist, toutes ces armées, et ça sera la fameuse bataille d'Armageddon qui mettra un terme au système de ce monde. Voilà, alors maintenant on va regarder cette entrée dans ce qu'on appelle une nouvelle dispensation. Et comme nous serons avec le Seigneur, que nous aurons écrasé toutes ces armées et qu'Israël sera sauvé juste au dernier moment, et bien nous allons voir que l'entrée dans le millénium, c'est ce qu'on appelle d'abord la fin du monde. La Bible parle de la fin du monde.
Et
la fin du monde, c'est la fin des systèmes de ce monde. On va relire cette vision que Daniel a reçue dans Daniel 2, parce que c'est vraiment une vision extrêmement puissante au niveau de la prophétie. Et je vous rappelle que Daniel va voir une statue en 4 parties, et il va voir au bout d'un moment une pierre. On va lire à partir du verset 34, c'est ça qui m'intéresse ici. Daniel 2, 34, donc, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue qui les réduisit en poussière. Alors le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme une balle, c'est-à-dire comme de la poussière qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Et on voit l'explication de tout ce songe. Donc Daniel et le roi, ils ont vu une statue en 4 parties. La petite pierre qui vient frapper les pieds de la statue. Avec les 10 orteils qui représentent les 10 nations qui vont se liguer. Au départ avec l'Antichrist. Et cette petite pierre qui a l'air de rien, qui a l'air de se détacher de nulle part, frapper les pieds de la statue et écrouler cette statue. Et ça, c'est une prophétie sur la fin des royaumes, des systèmes de ce monde. Je vous ai dit et je vous le répète, dans la perspective de votre salut, vous devez toujours penser que le plan originel de Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire avoir un peuple humain, esprit âme et corps, qui règne sur sa propriété en parfaite harmonie avec lui et avec le monde physique. Rappelez-vous que Adam a tout gâché.
Mais
Dieu va restaurer tout ça et est en train de restaurer ça. L'objectif, c'est qu'on soit dans le paradis sur terre. Et ça, c'est ce que Dieu va faire. Pour cela, je vous rappelle qu'il va le faire par étape.
Ça ne
se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que quand Jésus est venu mourir et ressusciter, beaucoup de gens n'ont pas compris. Ils
se
sont dit, bon, bah, il est mort, il est ressuscité.
Apparemment,
il est reparti.
Mais
beaucoup de gens n'ont pas prêché le royaume de Dieu. Pourtant, quand vous lisez ce que Jésus dit dans les évangiles à propos du royaume, Jésus parle souvent du royaume. L'objectif de Jésus, c'était le royaume. Le royaume. Le royaume. Là où Dieu règne totalement. Le royaume sur la propriété. Mais pas dans l'état où la propriété sera laissée. Donc, Dieu restaure ces choses. Verset 44, il est dit, toujours Daniel 2, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, donc qui sera éternel. Mais ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ça veut dire que c'est pas des gens qui vont se conquérir les uns les autres comme les quatre autres royaumes. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication est digne de confiance. Donc, c'est clair ici, ce royaume va devenir éternel et il changera jamais. Il sera immuable. Alors, nous sommes à la fin de la tribulation. Et il y a plusieurs paraboles dans les évangiles qui nous parlent de la fin du monde, c'est-à-dire juste à la fin de la tribulation. Matthieu 13, on avait terminé par ça, on va relire ces choses. Et je vais vous remontrer exactement ce qu'il en a. Il y a 7 paraboles dans Matthieu 13. Et il y en a 2 qui concernent la fin du monde. Les 2 paraboles qui concernent la fin du monde, eh bien, nous allons les découvrir. C'est d'abord la 2e parabole et la 7e. Si vous regardez Matthieu 13, il y a beaucoup de paraboles. Il y a la parabole du semeur que nous connaissons tous. Il y a la parabole de l'ivraie à partir du verset 24 au verset 30 que nous allons relire. Nous avions terminé par ça la dernière fois. Il y a la parabole du grain de moutarde. La parabole du levain. La parabole du trésor caché. La parabole des perles à partir du verset 45. Et puis il y a une 7e parabole, c'est la parabole des poissons. Donc on va s'intéresser à la parabole numéro 2 et la parabole numéro 7. Parce que ce sont 2 paraboles qui vont nous montrer ce qui va se passer à la fin du monde. Pour nous rappeler le contexte, on est après 7 ans de tribulation. La terre est dans un chaos immense. Dieu a envoyé ses jugements partout. Il y a des bains de sang partout. Satan a tout fait pour éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Mais malgré cela, il y a des gens qui se sont convertis. Beaucoup se sont convertis et sont morts pour leur foi. Parce que je vous rappelle que là, c'est souvent le prix de la vie de la personne contre sa foi en Jésus. Ce que vous voyez dans les pays où on interdit l'évangile, par exemple les pays musulmans, les persécutions de ces gens-là aujourd'hui, je le dis en toute pudeur, c'est pas grand chose par rapport aux persécutions qu'il y aura dans la tribulation. Et pourtant, vous savez, moi je reçois des courriers électroniques de gens qui vivent par exemple au Maroc. On chasse les gens qui se convertissent. On les emprisonne. Ne parlons pas de l'Algérie. Ne parlons pas de ces pays-là, c'est incroyable. On persécute les chrétiens. Il y a des pasteurs qui sont en prison. Si vous allez en Érythrée, vous savez qu'en Érythrée, Érythrée, il est interdit de prêcher l'évangile. Dans mon avant-dernier voyage, j'ai été en Norvège et j'ai été prêché dans une église d'Érythréens. C'est la première fois que je rencontrais des Érythréens. Ce pasteur m'avait invité, c'est la meilleure réunion que j'ai eue. Ces gens-là, ils avaient soif incroyable. Et j'ai parlé au pasteur. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il m'a dit, les chrétiens sont persécutés en Érythrée. C'est un des pays où il y a le plus de persécutions. Les pasteurs sont mis en prison. Les églises sont interdites. Et je lui ai dit, est-ce que ça vient des musulmans? Il m'a dit, non, c'est le communisme. C'est à cause du communisme. On leur interdit de parler de Dieu. Toute personne qui veut faire mention de Dieu est quelqu'un qui est hors la loi
et
mis en prison. Mais pendant la tribulation, ces gens-là seront égorgés parce que Satan essaiera d'éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Il fera tout. Je vous rappelle que quand l'enlèvement va arriver, ça va être un choc. Il va y avoir deux réactions. Des gens qui diront, mais ces chrétiens avaient raison. Où est-ce qu'il y a des livres qui parlent de Jésus? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On me parlait de me repentir et me donner ma vie à Jésus. Et puis, l'autre réaction, satanique. L'église n'est plus. Il n'y a plus la prière des saints sur la terre. Qui empêche l'ennemi de faire ce qu'il veut. Parce que sachez que nos prières, l'influence du royaume de Dieu, empêche Satan de faire ce qu'il veut concernant la connaissance. C'est pour ça que l'église est là sur la terre. L'église est là sur la terre aujourd'hui pour amener à répandre la connaissance de Dieu. C'est pour ça que nous parlons. Nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, etc., de bonnes nouvelles, etc. Ça, c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit, parce que c'est notre rôle. C'est pour ça que ne pensez jamais que votre rôle, c'est d'être un petit chrétien tranquille sur une chaise. Non, votre rôle est de parler du Seigneur, d'amener sa connaissance. Votre rôle, c'est de prier le Dieu des cieux, parce que vous avez un puissant accès auprès de Dieu. Et d'amener l'influence du royaume de Dieu sur la terre. Et avec les histoires de l'Antichrist, avec les oppositions, avec Dieu qui va venir juger, il y a un moment où il y a un quart des hommes qui vont mourir. D'un seul coup. Il va y avoir des trucs terribles. Dieu va envoyer des jugements terribles. Parce que les hommes vont essayer de se liguer contre Dieu. Gouvernement mondial. On va essayer d'éradiquer la connaissance de Dieu. Pacte satanique au plus haut degré. La marque de la bête, c'est un pacte satanique. On n'en sait pas plus. Donc, juste à la fin de ces 7 ans, alors qu'Israël sera délivré tout juste, nous l'avons vu dans Romains, d'abord Israël va se convertir en masse. Des gens aussi, des païens vont se convertir. Beaucoup vont mourir pour leur foi. Mais il y aura des gens à la fin du monde qui seront païens, il y a aussi des gens sauvés. Et ces paraboles-là concernent juste la fin de la tribulation. Là, le diable est enchaîné. L'Antichrist est détruit. Jésus est là en Israël. Et il va se passer quelque chose. C'est ce que Jésus nous explique ici. Il leur proposa une autre parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent, « Seigneur, tu n'as pas semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On peut lire le verset 30, s'il vous plaît. Ici, la moisson, c'est quoi? C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est là où, juste à la fin de la tribulation, Jésus revient sur la terre, deuxième retour. Nous sommes là, il est avec ses saints, nous sommes là. Il a repris le contrôle de la terre. Et là, il va y avoir du nettoyage. Parce que nous avons vu que dans Daniel, il y a une période qui est nommée, on va revenir là-dessus. Dans Daniel 12, verset 12, il y a une période. On va revenir là et après 12-12. Si on comprend bien ce texte, rappelez-vous, le contexte ici, c'est la fin du monde aussi. Depuis le temps, verset 11, où sera interrompu le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi.
Ikimaze cyo koswa umurongo wa 11 mu kirundi ikimaze cyo koswa gihora gitangwa uko bukeye uheregiye kizokurirwaho bagashinga cha kizira cy'ubuyobe cazanye ubugesera hazocaho iminsi 1290 no vuga imyaka 3 n'inusu.
Nous savons que là on parle du début du milieu de la tribulation.
Hano icyo bavuga ni guhera hagati y'igihe cyo
guhamwa. Jusqu'à la fin de la tribulation.
Gushika ku mpera y'igihe cyo guhamwa.
Ça s'appelle la grande tribulation.
Nibyo iyo myaka 3 yanyuma
n'inusu. Ça va durer 3 ans et demi.
Bayiti hamwe ari kuri bizomara imyaka 3 n'inusu.
Et là il dit il y aura 3 ans et demi jusqu'à la fin.
Avuga ngo hazobaho imyaka 3 n'inusu gushika ngo bihere.
Au moment où en fait l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire tout ce que l'antichrist va essayer de faire, c'est-à-dire essayer de prendre la place de Dieu. Au bout de ces 7 ans, c'est-à-dire la deuxième partie de 3 ans et demi, c'est là où il y aura vraiment une montée de l'antichrist, où il va tout faire, c'est-à-dire le diable va utiliser cet homme pour vraiment essayer de mettre un grand coup à la connaissance de Dieu et prendre la place de Dieu. Rappelez-vous qu'il régnera à Jérusalem et il utilisera tellement d'esprits sataniques qu'il n'y aura jamais eu autant d'activités sataniques que dans cette période-là sur la terre. Au verset 12, l'ange révèle quelque chose à Daniel. Il dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335
jours. »
Quand vous faites la différence
entre
1290 jours qui représentent 3 ans et demi
et
1335 jours, vous trouvez 45 jours. Et on pense, en tout cas moi je suis de ceux qui pensent que c'est le temps où Jésus va mettre en place l'entrée dans le millénium.
C'est-à-dire,
il y a la fin de la tribulation, il y a l'entrée dans le millénium qu'on va étudier, et il y a 45 jours. Et ces 45 jours, je pense personnellement que c'est là où ces paraboles vont prendre toute leur signification. Les paraboles que nous sommes en train de lire.
Donc,
revenons à Matthieu 13. Parce que Jésus va faire entrer dans le millénium un certain nombre de personnes, on va justement le voir. Parce que le millénium va commencer avec un certain nombre de personnes. Le millénium étant le règne de Jésus, à partir de Jérusalem, pendant 1000 ans, dans vraiment une gestion et une administration de la terre comme la terre n'aura jamais connue. Donc là, Jésus nous dit, au temps de la moisson, hein, dans cette parabole que nous avons lue pour l'ivraie,
Matthieu 13,
il nous dit tout simplement, eh bien, il dit aux anges, laissez tout. Et après, il y aura le nettoyage. Le blé est livré. La tribulation sera une période de confusion spirituelle gigantesque. Parce qu'il va y avoir beaucoup de signes, de prodiges et des miracles de la part de Dieu. mais aussi de la part de Satan. Beaucoup de gens sont complètement troublés. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Vous vous rappelez dans Matthieu? Jésus dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? On n'a pas chassé des démons? Littéralement, c'est même pas en ton nom, c'est plus par ton nom. Pour ton nom.
Ce n'est
pas exactement en ton nom. On pourrait étudier ce texte, mais je n'ai pas le temps de venir là. Mais en fait, l'idée ici, c'est que Jésus dit, non, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. À la fin de la tribulation, beaucoup de gens se réclament entre guillemets de Dieu, spirituel, mais là, ce sont les anges qui vont faire le tri. Et on va expliquer pourquoi. Allons à la 7e parabole de Matthieu 13, c'est-à-dire au verset 47. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor de choses nouvelles et de choses anciennes. Ici, Jésus nous parle bien de la fin du monde. Au verset 49. Et la fin du monde, c'est quoi? La fin du monde, littéralement, c'est la fin des systèmes de ce siècle. C'est-à-dire la fin de la façon dont la terre est gérée. Nous savons que la terre est gérée avec des gens qui se lèvent, qui sont rois, qui sont présidents, ça monte et ça descend et ça passe. Mais ce n'est pas la finalité de Dieu. La finalité de Dieu, c'est que Dieu vienne régner sur son peuple et sur la terre. Ça, c'est la finalité de Dieu. C'est le plan de Dieu tel qu'il le voulait en Éden. Rappelez-vous, tout va pour une restauration de ce qui s'est passé en Éden. Mais sans qu'il ne puisse y avoir de gaffe. Ça doit être terminé. Alors, il y a d'autres paraboles dans Matthieu. Et Matthieu, vous allez trouver, Matthieu 25, vous allez trouver beaucoup de paraboles sur la fin des temps, la fin du monde, avec... dans Matthieu particulièrement. Matthieu, c'est l'évangile entre guillemets le plus eschatologique, c'est-à-dire qui nous parle le plus de la fin des temps. Comme Daniel est le livre de l'Ancien Testament qui est le plus eschatologique, c'est-à-dire qui nous parle le plus de la prophétie de la fin des temps. Et rappelez-vous, comme par hasard, l'évangile de Matthieu s'adresse aux Juifs. Chaque évangile s'adresse à un type de personne. Mais l'évangile de Matthieu s'adresse particulièrement aux Juifs. Et rappelez-vous que les Juifs avaient des prophéties de la fin des temps. Et que Dieu est venu greffer l'Église sur le peuple juif. Mais partout vous verrez que Dieu a fait des promesses pour le peuple d'Israël. Qu'Israël deviendra la nation la plus puissante du monde. C'est ça que nous allons voir dans le millénium. Donc Jésus va beaucoup enseigner pour les Juifs dans Matthieu. Et particulièrement, nous trouvons l'entrée, qu'est-ce qui va se passer entre la fin de la tribulation et l'entrée dans le millénium dans Matthieu 25. Matthieu 24 précède Matthieu 25. Et là, Jésus parle de la tribulation et de vraiment des moments difficiles pour Israël. Et puis vient Matthieu 25. Où on a les paraboles des dix vierges. Puis la fameuse parabole des talents. Et c'est là où Jésus explique un certain nombre de choses, particulièrement qui vont se passer pendant la tribulation. On utilise, c'est vrai, souvent ces deux paraboles pour donner certaines images, mais en fait, l'essence même, c'est-à-dire là, c'est pourquoi Jésus a donné ces paraboles, c'était normalement des paraboles eschatologiques, donc pour la fin du monde.
Au verset 31,
le Seigneur va nous montrer un certain nombre de choses à propos de l'entrée dans le millénium. Il est dit, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Ici, Jésus parle de venir. En fait, de revenir. Mais rappelez-vous, pour Israël, le temps de l'Église était invisible. Rappelez-vous, les disciples ont posé la question à Jésus. Est-ce que c'est le moment ou les temps où tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur a dit, au début des actes, ce n'est pas à vous de connaître ce temps-là. Mais dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit, etc. En fait, Jésus est en train de leur dire, il y a une nouvelle dispensation qui est en train de s'ouvrir. C'est un temps particulier où je veux toucher les païens pour qu'ils entrent dans le royaume. Rappelez-vous de certaines paraboles que Jésus a données. La parabole des du vigneron, on l'a lu ça. Où il a clairement expliqué dans Matthieu. Je ne sais plus si c'est au chapitre 20, je crois, 20 ou 21. Où il y avait le vigneron, le propriétaire donc de la vigne, il confie sa vigne, et puis ceux qui la gèrent mal. Et il tue les serviteurs que le maître envoie. Puis il tue le fils. Et le maître dit, je vais enlever ma vigne à ceux à qui je l'ai confiée. Et je vais la donner à d'autres. Et nous savons que ça signifie qu'Israël, Jésus a retiré la gestion de la connaissance de Dieu. Rappelez-vous que c'était Israël qui était supposé avoir la connaissance de Dieu et la transmettre dans le monde entier. Et ils ont échoué dans leur mission. Et c'est pour ça que Jésus a choisi un autre peuple. Mais Israël a une destinée prophétique. Et cette destinée prophétique, je vous rappelle, va recommencer lorsque Jésus revient.
Pour
la deuxième fois. La première, il enlève son église. L'horloge prophétique pour Israël termine la dernière semaine d'année de Daniel.
Et
là, après, on va entrer dans le temps d'Israël. Mais juste avant, il faut préparer le millénium. Toutes les nations, regardez bien, verset 32, seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné, etc. etc. » etc., etc. Ensuite, verset 41, il dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. » Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, etc., etc., etc. Ils iront au châtiment éternel. Donc on voit ici que à la fin du monde, Jésus sera là à Jérusalem. Tous ceux qui seront encore vivants dans leur corps. À la fin de la tribulation, tout le monde ne sera pas mort. Il y aura encore beaucoup d'êtres vivants sur la terre. Il y aura deux types d'êtres vivants, donc des hommes, des êtres humains qui seront dans leur corps. Ceux qui auront accepté Jésus, les brebis, et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, les boucs. Les boucs, Dieu va les envoyer en enfer avec les autres qui sont déjà en enfer. Par contre, les brebis, il va leur dire, voilà, l'héritage est prêt. Dans ces brebis, il y aura qui? Des païens qui se seront donnés à Jésus, mais aussi des Juifs en masse qui se seront donnés à Jésus au dernier moment. Vous vous rappelez qu'on avait lu les prophéties de Zacharie. Et dans les prophéties de Zacharie, nous avons découvert qu'ils vont reconnaître au dernier moment celui qu'ils ont percé. C'est-à-dire que là, les Juifs se convertissent en masse soudainement. Mais entre-temps, il y aura quand même eu des batailles. Plein de gens seront morts, martyrs. Des Juifs qui auront été sauvés, des non-Juifs qui auront été sauvés, et là, eux, ils seront déjà au ciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, Jésus sépare ces types de personnes qui sont encore dans leur corps. Parce que dans l'entrée du millénium, il n'y aura que des gens qui ont servi Dieu. Deux catégories. Nous, qui auront notre corps ressuscité. Et les autres, qui se seront convertis pendant la tribulation. Rappelez-vous que ceux qui se seront convertis pendant la tribulation, ils n'auront pas de récompense, parce que nous, on aura déjà eu les récompenses. Parce que nous, nous avons cru avant l'enlèvement de l'Église, avant que Dieu montre réellement quelque chose, un événement exceptionnel que des gens vont voir avec leurs yeux. Donc personnellement, je suis persuadé, parce que je ne vois pas sinon dans l'Écriture, que les personnes qui auront, nous, l'Église, qu'on a accepté Jésus, et on avait un choix. On n'était pas sous les pressions de la tribulation, sous les pressions de grandes catastrophes gigantesques dans le monde. On nous a prêché Jésus. On a dit oui. On a travaillé pour le Seigneur. Nous avons eu nos récompenses. Pendant les 7 ans de tribulation, les gens qui vont se donner, ce sont des gens qui vont être tellement désespérés parce que la terre va être dans un tel chaos inimaginable. Je vous ai dit, même le tsunami n'est rien à côté de ce qui va se passer pendant la tribulation. Même les plus grandes catastrophes que vous entendez, les tremblements de terre, les trucs où il y a des centaines de milliers de gens qui disparaissent comme ça, ce n'est pas énorme, ce n'est pas beaucoup de choses par rapport à tout ce qui va se passer sur la terre, tous les jugements que Dieu va envoyer sur la terre. Et là, c'est Dieu qui va envoyer le jugement. C'est Dieu qui va amener des jugements sur la terre volontairement. Alors, on va regarder maintenant, Apocalypse. Et dans l'entrée dans le millénium, il y a un certain nombre de gens. On va relire l'entrée dans le millénium. Et je vais vous montrer qu'à la fin de la tribulation, pour l'entrée dans le millénium, ce ne sont que ceux qui ont servi Dieu qui vont rentrer dans le millénium, mais avec différentes catégories. Ceux qui auront leur corps immortel, leur corps incorruptible, et les autres qui seront encore vivants à la fin de la tribulation, les brebis que Jésus aura mis de côté et qui vont entrer dans le millénium avec un corps comme celui-ci, un corps mortel. Parce que nous allons voir la suite du millénium. C'est ce que la Bible nous montre. On va lire ensemble. D'abord, Apocalypse 20. Il est dit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui te versait un, la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, alors regardez bien maintenant, et ceux qui étaient assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache, à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que ces 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On peut lire peut-être du verset 4 jusqu'au verset 6, s'il vous plaît.
Kuva kuri kane gushaka kuri gatandatu ngo mbona intebe z'ubwami mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo cacu kandi ntibemeye gushigwa ikimenyetso cacu mu ruhanga canke ku kiganza baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000 abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira uko niko kuzuka kwa mbere uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera urupfu rwa kabiri nirugira ububasha kubameze batyo ariko bazoba baherezi b'Imana na Kristo kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000.
Alors ce texte est extrêmement riche mais il faut vraiment avoir de l'éclairage pour comprendre parce que ça recoupe beaucoup d'autres textes bibliques.
Iki gice rero kirimo ubutunzi bwinshi ariko birakena asobanukirwa cyane kugira ngo ashobore kumenya ibirimo cyane.
Donc nous avons clairement vu et ce texte le confirme.
Twabonye cyane kandi iki gice kiravyemeza.
Que juste à la fin de la tribulation.
Yuko ku mpera y'imyaka y'uguhamwa.
Jusqu'à l'entrée du millénium.
Maze batangwe kwinjira mu gihe cy'imyaka 1000.
Il va y avoir du nettoyage parmi les hommes.
Hazobaho gukubura cyangwa gutunganya gukuraho ibitameze neza mu bantu.
Jésus va prendre ceux qui sont vivants.
Yesu afata abazima.
Et il va les séparer.
Abatandukanye.
Ceux qui auront cru, qui seront nés de nouveau pendant la tribulation.
Abizeye bagakizwa mu gihe cy'ihamwa.
Ceux qui n'auront pas cru.
N'abatobazoba barizeye.
Et qui vont aller en enfer.
Bazoca baja mu muriro.
Mais il y a aussi ceux qui sont, qui ont cru.
Ariko hazoba hariho n'abandi bizeye.
Et qui sont morts en Christ.
Bapfuye bari muri Kristo bakijije.
Les martyrs.
Abamartyrs.
Les martyrs de la tribulation.
Abamartyrs bo mu gihe cy'ihamwa.
Il y a plusieurs passages qui en parlent.
Hari bice byinshi bitubwira.
Apocalypse 6.
Ibyahishuriye gatandatu.
On voit ces martyrs qui parlent. Jean voit prophétiquement ce qui va se passer. Et après, on reviendra à Apocalypse 20 et je vais vous montrer quelque chose à propos des phases de la première résurrection.
Chapitre 6
d'Apocalypse, versets 10 et 11, ça va nous parler de ceux qui ont cru pendant la tribulation, mais qui ont été martyrisés, c'est-à-dire qu'on a tué pour leur foi. C'est ça un martyr. Et là, ils sont dans le ciel parce qu'ils ont été tués pour leur foi. Ils ont été égorgés. C'est ce que le verset 9 nous dit. Il est dit quand il ouvrit le cinquième sceau. Ça, c'est des jugements que Jésus va envoyer sur la terre pendant la tribulation. Je vis sous l'autel les âmes, c'est-à-dire les vies, de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang des habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient mis à mort comme eux.
No gushinga intahe bari bafise batakambisha ijwi rirenga bati databuja wera w'ukuri uzogeza ryari kudaca amateka no kuduhora no kudahora abari mu isi amaraso yacu umuntu wese muri bo ahabwa ikanzu yera canke imvune yera babarigwa kumara iyindi minsi baruhuka gushitsaho igitigiri c'abagurano bagenzi babo na bene se bagira bicwe nkabo kizoshikira.
Ici ce dont il est parlé prophétiquement,
ariko ntibatubwira mu buryo bw'ubuvugishwa,
ce sont ceux qui ont été mis à mort pour leur foi, les martyrs de la tribulation qui parle comme ça. Parce que là, on est en plein jugement de la tribulation dans ces passages-là. À partir d'Apocalypse 5, on voit une succession des différents jugements que Dieu va envoyer sur la terre pendant la tribulation.
Donc,
certains sont là, sur la terre. L'église vient d'être enlevée. Il crie à Dieu. Mais on attrape
Steve.
Tu parles de Dieu, tu as trouvé une Bible.
D'abord.
Donc son esprit, son âme monte. Auprès du ciel, auprès du Seigneur. Nous, pendant ce temps-là, nous le savons, pendant ces 7 ans, nous avons reçu nos récompenses. Nous sommes en train de recevoir nos récompenses. Steve ne reçoit pas sa récompense parce que la Bible ne parle pas de recevoir des récompenses pour ceux qui ont été martyrisés. Parce que c'est leur dernière chance de salut. C'est leur dernière chance de salut. Ils sont sauvés, mais ils ont vu l'enlèvement, ils ont vu que finalement, ce que nous, chrétiens, nous avions prêché à partir de la parole, que Jésus allait revenir. Parce que rappelez-vous d'une chose, nous devons prêcher que les gens soient épargnés du jugement qui va venir. Ça fait partie de la bonne nouvelle en disant Jésus est là pour vous sauver parce qu'il y a un jugement qui va venir. Nous avons la même sorte de message que Noé. Noé disait, hey, attention, il y a un déluge qui arrive. La seule possibilité de pouvoir échapper à ce déluge,
donc,
à la mort, c'est de monter dans le bateau que je suis en train de construire. Personne n'avait voulu croire à l'époque, sauf sa famille, imaginez-vous. Il y avait beaucoup d'impiété, beaucoup de rébellions. C'était ce qu'on appelle un temps d'apostasie, c'est-à-dire les gens refusaient de croire en Dieu pendant les temps de Noé. Et en fait, ces gens-là vont croire pendant la tribulation, souvent au prix de leur vie. Tous ne vont pas être tués. Comme je vous disais, il y a beaucoup de Juifs qui vont crier à Jésus au dernier moment, et c'est là où il va apparaître. Et il y en a un bon nombre qui ne mourront pas à la fin de la tribulation. Jésus sépare les boucs avec les brebis. Donc nous savons qu'il y a un certain nombre de gens qui seront dans leur corps, qui auront accepté Jésus pendant la tribulation, qui vont entrer dans le millénium, dans cette période de millénium. Nous aussi, nous serons dans le millénium. Nous régnerons, mais nous avons déjà notre corps ressuscité. Maintenant, nous venons de le lire. Il y a un certain nombre de gens qui ont accepté le Seigneur et qui ont été tués pour leur foi. Les martyrs de la tribulation. Eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Pour entrer dans le millénium, ils ne sont pas dans leur corps puisqu'ils sont morts. Donc, ce sont les seuls êtres qui sont qu'en deux dimensions, esprit et âme, et ils sont au ciel. Qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, il va faire une deuxième phase de la première résurrection. Parce que la première résurrection va se passer en phase. C'est la seule explication qu'on puisse donner. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre certains textes. La première phase de la première résurrection, la résurrection des justes, c'est quand Jésus vient chercher son église. Premier retour de Jésus. Entre temps, il y a des gens qui vont se convertir. Il y a la deuxième phase de la première résurrection. La Bible nous en parle dans l'Apocalypse. Mais aussi, Daniel l'a vu. Chapitre 12. Rappelez-vous, Daniel ne voyait que les temps prophétiques pour Israël. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent la fin des temps, je vous le rappelle, ne voyait pas le temps de l'Église. Nulle part, prophétiquement, les prophètes avaient une seule révélation sur le temps de l'Église. Et ils ont eu des révélations sur la croix, certains, très limite, très limité. Le Messie allait souffrir. Le Messie allait ressusciter, apparemment. Ça, ils le savaient. Mais dans leur prophétie, c'était adressé aux Juifs. Ça marchait seulement avec l'horloge prophétique des Juifs. Et nous savons que cette horloge prophétique s'est arrêtée quand Jésus va mourir sur la croix et se remettra en marche quand Jésus va revenir chercher son église. C'est pour ça que nous savons entre la 69e semaine et la 70e semaine d'année de Daniel,
nous savons que nous savons qu'entre la 69e semaine et la 70e semaine d'année de Daniel,
Il y a une période de temps indéterminée qui est le temps de l'Église. C'est là où nous sommes actuellement. Donc, Daniel va voir des choses. Dieu lui révèle des choses prophétiques d'une façon incroyable. Et voilà ce qu'il va voir. Il va voir une résurrection. Une résurrection.
Kuzuka.
C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 20. Il est dit verset 1 de Daniel 12. En ce temps-là se lèvera Michel ou Michael, le grand chef, c'est-à-dire l'ange, celui qui tient bon en faveur des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. En ce temps-là, ton peuple échappera. Tiens donc, ça nous fait penser à certaines choses. Quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'abjection éternelle.
Gomaze ico gihe Mikayeli azohaguruka niwe mugabisha ahagarika ubwoko bwanyu kandi hazoba gihe cy'umubabaro tigeze kubaho uhereye gihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka kandi benshi mu bazoba basinzire mwivu hasi bazokwikangura bamwe bikangura ubugingo budashira abandi bikangura ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshira.
Ici Daniel voit quoi?
Anye Daniel yabonye iki?
Une résurrection.
Une
résurrection de Jean.
Kuzuka kw'abantu.
Mais Daniel ne voyait pas la résurrection de l'Église.
Ariko Daniel yabona kuzuka kw'ishengero.
C'est-à-dire qu'il est clair, si on veut étudier les textes, sinon ce n'est pas compréhensible.
Il
y a plusieurs phases de la première résurrection.
Et
il y a 7 ans entre les deux phases, entre la première phase et la deuxième phase. Ceux qui ont été martyrisés pour leur foi pendant la tribulation,
eh bien,
vont ressusciter quand il va y avoir le début du
millénium.
Dans le millénium, ceux qui vont entrer, c'est qui? C'est vous et moi. Parce qu'on aura notre corps ressuscité et glorifié. Ce seront ceux aussi qui auront eu part à la deuxième phase de la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui se seront convertis pendant la tribulation, qui seront morts et qui seront ressuscités au début du millénium. Et aussi, ceux qui ne seront pas, qui auront cru pendant la tribulation, qui ne seront pas morts, ces 3 catégories de personnes vont entrer dans le millénium. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que ça va nous donner les clés pour comprendre qu'à la fin du millénium, il va y avoir une dernière rébellion contre Dieu, contre le diable, quand le diable va être relâché au bout des 1000 ans. Et cette rébellion ne peut se faire que par des gens qui ont un corps qui serait capable encore de se rebeller contre Dieu. Pas par ceux qui auront un corps ressuscité, parfait, incorruptible, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais pécher à nouveau. On va découvrir la prochaine fois que cette période du millénium, maintenant qu'on a compris qui va entrer dans le millénium, Jésus va remettre de l'ordre parce que la terre sera dans un tel chaos. Et c'est là où nous allons découvrir que le meilleur des gestionnaires de la terre va gérer sa propriété. Le Seigneur Jésus lui-même. Que nous régnerons avec lui. Et nous allons voir que la Bible nous décrit le millénium d'une façon un peu particulière.
Une
période très particulière. On verra qu'Israël va devenir la première nation du monde. Et va amener au travers du règne de Jésus sur la terre, pendant ces 1000 ans, accomplissement de toutes les prophéties messianiques qu'on verra particulièrement dans Ésaïe,
entre autres,
nous serons là aussi, nous participerons à ce règne. La terre va connaître un moment absolument extraordinaire pour 1000 ans. Nous découvrirons ça au travers de l'Écriture. Que le Seigneur vous bénisse. Et on continuera ce voyage dans lequel nous allons être embarqués.
komeza twinjiramo.
Passez une très bonne soirée.